Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je suis moi également très heureuse d'être parmi vous, d'avoir l'occasion d'échanger, d'aborder ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis Sarah Marquet, je travaille depuis 8 ans à l'ADEME sur la question de la qualité de vie en lien avec l'urbanisme. Et je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage qu'on a écrit et publié l'année dernière, en mai 2017, sur l'aménagement avec la nature en ville. Donc, je vous expliquerai comment on est arrivé à ce résultat. Mais voilà, pour commencer, je parlerai de pourquoi et comment on aborde la nature en ville à l'ADEME par rapport à l'urbanisme, qui est mon domaine d'intervention. Et puis la façon dont on a construit et structuré l'ouvrage, et puis on verra quelques extraits, et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous donner un peu des informations plus largement sur la façon dont on accompagne la recherche, donc je finirai la présentation par ça. Donc la nature en ville, pourquoi l'ADEME ? Alors, l'histoire est un petit peu longue, mais pour présenter l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. On intervient sur différentes thématiques, hein, de la question de la ville et des territoires jusqu'au climat historiquement et l'énergie, sur la qualité de l'air, sur la question des déchets aussi historiques et l'économie circulaire, bon, et tout un tas d'autres sujets. On est sous tutelle du ministère de la Transition énergétique et solidaire et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Et on apporte expertise à la fois au gouvernement, mais également aux collectivités, aux entreprises, au grand public et du conseil sur les domaines que je viens de citer. Ça, c'est les grandes thématiques. Et donc on apporte au-delà du conseil aussi des financements notamment aux projets de recherche, également aux projets expérimentaux, avec un budget global de 524 millions d'euros l'année dernière. Donc à partir de ces domaines d'intervention, on ne voit pas forcément directement la nature en ville, même si elle y a toute sa place, mais on intervient en particulier à travers l'urbanisme. On a plusieurs sujets, mais à la fois sur les sols, à la fois sur les friches urbaines, à la fois sur l'urbanisme plus largement. Nous sommes organisés en trois grandes directions pour les côtés techniques, ville et territoire durable, production et énergie durable et économie circulaire et déchets, avec une approche plus transversale pour l'animation territoriale et la présence en direction régionale. Et puis une grande direction autour de la recherche et de la prospective et des investissements d'avenir. Sur ville et territoire durable, donc j'appartiens à cette direction. Mon service, le service organisation urbaine, a un rôle intégrateur, transversal sur la question de la ville et des territoires. Notamment, on est chargé de mettre en œuvre la stratégie urbanisme qui couvre la période de 2018-2020. Donc, je vous ai mis le visuel, elle est téléchargeable sur le site de l'ADEME. L'objectif, c'est d'inspirer, d'accompagner et d'animer les acteurs de l'urbanisme dans la transition énergétique et écologique pour des territoires désirables, partagés et équilibrés. Donc là, ça fait écho à la présentation de Lise. Hein, la qualité des territoires, la qualité de vie est essentielle pour la mise en place de territoires désirables, partagés, équilibrés. Et du coup, l'écho, il se situe notamment dans la place de la nature en ville, qu'on fait à la nature en ville dans cet objectif-là. Donc on a parmi d'autres sujets, la nature en ville et son intégration dans les projets d'aménagement et de planification, pour déjà préserver et la développer ou la restaurer. Et parce que, on a vu tout à l'heure aussi, hein, c'est l'occasion à la fois de préserver la biodiversité, de mettre en œuvre une biosurveillance. La biosurveillance, ça permet aussi de sensibiliser et de mobiliser les citoyens. Et puis de bénéficier de services écosystémiques, à la fois sur le confort thermique, la gestion des eaux pluviales, le côté alimentation et l'attractivité, par exemple. Donc pour revenir à la façon dont on a construit l'ouvrage, on est parti d'un constat. Alors, toujours pareil, hein, c'est dans une idée d'accompagner les territoires, les collectivités et également les aménageurs et les bureaux d'études à intégrer la nature en ville dans les aménagements. On est parti du constat que les principes d'aménagement qu'on peut trouver dans différents ouvrages, on en propose également, s'appuient bien évidemment sur du bon sens, mais qu'on n'a pas forcément la précision sur les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre et que les impacts attendus soient effectifs. Donc Lys parlait tout à l'heure, par exemple, de l'effet de la végétation sur le rafraîchissement. Mais voilà, si on n'a pas une certaine quantité de terre ou une certaine quantité de végétation, l'effet rafraîchissant, il ne sera pas observé. Et du coup, on a aussi des idées préconçues, et c'est souvent en lien avec le bon sens, hein, qui se vérifient bien souvent. Ces idées préconçues sur les effets attendus, ça permet de savoir dans quelle direction on va aller, mais ça ne suffit pas pour savoir exactement quels effets environnementaux, sanitaires et économiques la nature en ville peut proposer. Sachant que bon, nous, on a une entrée au départ très environnementale, mais qu'on en a profité aussi pour proposer des effets sanitaires et économiques par la même occasion. Alors, du coup, partant de ces effets et de ces idées préconçues et de la volonté d'aller plus loin pour proposer des ordres de grandeur et pas seulement des orientations pour mettre en œuvre la nature en ville, on s'est dit que ce serait intéressant de valoriser les travaux de recherche que l'on soutient. Donc notamment sur la pollution des sols urbains, sur le confort thermique, on a pas mal de choses. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait plein d'autres sujets qui étaient, au-delà des projets soutenus, qui étaient très importants, qui étaient en lien avec nos activités, voire simplement incontournables, sur lesquels on n'avait pas forcément des projets à soutenir. Donc on a élargi et on s'est appuyé sur beaucoup de travaux scientifiques et aussi internationaux, pas que français, pour pouvoir proposer des chiffres qui, quand même, essayent de correspondre au contexte et au climat français. Donc on était parti sur l'idée d'un quiz. Un quiz parce que, voilà, on était vraiment sur la question des idées préconçues, comment les conforter, les infirmer. Et finalement, ça ne suffisait pas. Donc on s'est retrouvé avec un ouvrage de 100 pages. Mais c'était important de garder un peu sur cette idée de départ plusieurs niveaux de lecture, du plus simple au plus développé. Là aussi, c'est un travail qu'on a fait en interne. Alors, si vous connaissez l'ADEME, on s'appuie souvent sur des cabinets conseils, des bureaux d'études pour produire nos ouvrages. Celui-là, il a la particularité d'avoir été rédigé par nous-mêmes. Donc j'en ai fait à peu près la moitié. On a été 3 rédacteurs principaux. Et je le dis parce que c'est original, même si pour vous, ce n'est pas forcément très original, justement. Et puis, un travail pluridisciplinaire. On a parlé de ça aussi ce matin. Et c'était très important de pouvoir croiser les différentes expertises à l'ADEME, depuis la question de l'énergie à la performance du bâtiment, des friches urbaines et des sols pollués, de la qualité de l'air, de la question de l'alimentation. Donc ça nous permettait de réunir beaucoup d'expertises en un seul ouvrage. Et puis, autre point très spécifique à cet ouvrage, pour donner des ordres de grandeur, il fallait qu'on s'appuie sur des chiffres. Donc c'est vraiment, quand on avait fait le tour de ce qu'il existait, on n'arrivait pas à trouver suffisamment de chiffres et d'ordres de grandeur pour comprendre les effets de la nature en ville. Et ça a été l'occasion, dans cet ouvrage, de donner des chiffres. Alors, c'est des chiffres clés, hein, ça ne permet pas de calibrer un aménagement du début à la fin. Mais ça permet vraiment de donner des pistes, par contre, sur les moyens à se donner pour avoir les effets que l'on souhaite. Et puis éviter des effets indésirables également, qui pourraient advenir si on ne les avait pas anticipés. Voilà donc l'ouvrage. Alors, il donne le point de vue de l'ADEME, du coup. Hein, on l'a rédigé, et c'est quelques personnes qui l'ont rédigé. On ne s'intéresse pas à tous les enjeux. On s'est limité à certains enjeux liés à l'urbanisme durable et principalement en lien avec nos domaines d'intervention. Donc, on pourra aller beaucoup plus loin. Ce sera intéressant, d'ailleurs. Voilà, ça c'était la première partie, la première exploration. Il se destine principalement aux collectivités, aux aménageurs et aux bureaux d'études. Alors, il s'appuie beaucoup sur les travaux scientifiques, avec la volonté d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des niveaux de lecture différents. Hein. Donc, ça permet d'avoir une lecture assez facile et puis de cibler les sujets qui sont le plus important pour chacun. Alors, la façon dont il est structuré. Il est structuré en 14 chapitres, donc c'est les 14 sujets. C'est un peu petit à voir, mais on va pas les lister tous. Hein. Donc, j'ai mis à l'accueil en fait, c'est le visuel de ces 14 chapitres à l'entrée. Donc, si vous voulez voir tous les sujets qui sont abordés. Mais bon, globalement, il y a à la fois de la biodiversité, la biosurveillance et la qualité de l'air et des sols, la question des ambiances urbaines, la gestion des eaux pluviales et de la pollution de l'eau, le confort thermique à la fois dans les espaces publics et dans les bâtiments, le stockage de gaz à effet de serre, la question de l'approvisionnement et de l'alimentation locale, et puis des questions d'attractivité, de dépenses publiques, de valeurs économiques qu'on a pu aussi également voir ce matin. Voilà, donc ces 14, ça commence comme ça, 14 chapitres, c'est sous forme de quiz qui ensuite renvoie pour avoir la réponse à chaque chapitre. Et pour chaque chapitre, on a la réponse plus ou moins développée au quiz avec un résumé. Je vais vous en montrer quelques-uns par la suite. Une partie générale qui s'attache à expliquer les phénomènes en jeu. Et après, un développement qui vraiment va sur les impacts précis du phénomène dont le chapitre est le sujet. Avec, donc, ce que je disais tout à l'heure, dans chaque chapitre, des ordres de grandeur chiffrés pour caractériser les effets. Donc, ça pourrait être, par exemple, la surface minimale d'un réservoir de biodiversité pour qu'il puisse assurer la survie des espèces qu'il abrite, ou bien le type de façade végétalisée qui est en mesure d'assurer une isolation avec la quantité d'eau nécessaire pour l'entretenir. Et puis, il y a dans chaque chapitre aussi des ouvrages pour aller plus loin. Parce que là, on a une vision assez large et rapide du sujet. Pour aller plus loin, on a tout un tas d'ouvrages, notamment ADEME ou auxquels l'ADEME a participé, qui ça nous permet de faire un petit peu de pub pour avoir un peu plus d'informations sur chaque sujet et la bibliographie, donc comme je disais, avec beaucoup de travaux scientifiques. Là, j'ai mis quelques chiffres clés. Bon, c'était pour illustrer un peu la façon dont on donne des informations. Je parlais de séquestration de carbone, stockage carbone tout à l'heure. Il y a dans les pelouses, par exemple, si on exporte les tontes, donc la pelouse tondue, on perd le potentiel de séquestration. Enfin voilà, c'est des éléments comme ça qui montrent un petit peu attention pour tel ou tel bienfait ou service écosystémique, il y a des moyens à mettre en œuvre pour l'obtenir et le conserver. Alors quelques extraits. Donc là, c'est un peu le quiz de l'ouvrage. Sur la biodiversité, j'ai choisi ce sujet-là parce qu'il y aura pas mal de présentations sur le sujet. C'est quelque chose qui est beaucoup traité. Il y a même un colloque là en ce moment à Valenciennes sur les assises de la biodiversité. Enfin voilà, c'est un sujet qui revient beaucoup. Alors nous, on n'intervient pas directement dessus. Hein. Il y a l'Agence nationale de la biodiversité pour ça. Par contre, pour ce qui est aménagement, oui, on intervient au sens où l'aménagement et la biodiversité sont fortement liés. Donc voilà l'extrait du chapitre avec la réponse en bref à la question « Est-ce que la nature favorise la biodiversité ?» Oui, ça peut être une façon de... la ville peut être un refuge pour la biodiversité, mais ça peut être aussi une menace. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, ça montre un petit peu le concentré, le condensé de la réponse développée du chapitre. Et puis... des chiffres clés. Donc le premier, c'est la quantité d'hectares artificialisés, soit 5 millions en France. qui peuvent entraîner la perte de biodiversité. Un deuxième chiffre sur le fait qu'il y a des villes qui servent de refuge à des espèces végétales menacées d'extinction, par exemple. Et puis le troisième chiffre sur la taille minimale des réservoirs de biodiversité pour assurer leur rôle. Donc voilà, la réponse est la biodiversité est favorisée sous certaines conditions. On pourrait faire un quiz d'ailleurs, moi j'ai pas prévu le matériel pour répondre. Et là, donc c'est le visuel de l'intérieur du livre. J'ai pas pu en apporter parce qu'on est en rupture de stock papier, mais il est disponible en ligne sur le site de l'ADEME. Et toutes les infos sont sur le petit dépliant à l'entrée. Je ne sais pas combien de temps on a. Je peux faire encore un ou deux extraits, ouais. D'accord. On est large. Mais bon, après, je ne vais pas vous affamer. Ouais. Donc, deuxième exemple sur la nature en ville, l'approvisionnement et l'alimentation locale. Donc, la nature, source d'approvisionnement et d'alimentation. Ben oui, c'est vrai, avec attention des précautions à prendre sur les sols contaminés, la façon dont on peut les dépolluer, la façon dont on peut mettre à disposition certaines parcelles et choisir l'usage en fonction choisir les parcelles adaptées à cet usage. Donc pareil, hein, un paragraphe qui répond à la question, là, des exemples chiffrés. Et là, c'était intéressant aussi. Bon, enfin, on parlera dans le cours du colloque des jardins collectifs. Donc voilà, j'essayais de faire un peu le lien avec ce qui sera présenté dans les jours prochains. Et comme je disais tout à l'heure, on fait de la pub aussi pour nos ouvrages. Donc là, on parlait des ouvrages ADEME en lien avec l'alimentation, notamment Jardin potager, terres inconnues. Je crois que c'est un ouvrage qui a été publié suite au projet J'assure, un projet ANR, mais copublié avec l'ADEME. Donc là, c'est intéressant aussi de voir qu'on a à la fois par rapport à ce que vous disiez ce matin, je pense qu'il y a à la fois moins d'intrants chimiques et à la fois attention. Enfin, l'ouvrage en parle aussi. Justement, quand on est potager, enfin jardinier chez soi, il y a le risque de mettre plus que dans les cultures agricoles. Donc voilà, le livre aussi permet de mettre l'accent là-dessus. Et puis sur les transferts des contaminants des sols vers les cultures. Vers les plantes, vers les animaux qui mangent les plantes. Voilà, quelques exemples d'ouvrages. Troisième exemple sur l'attractivité des espaces urbanisés. Oui, bon, la réponse, elle a déjà été donnée ce matin. Mais il y a plusieurs choses, hein, à la fois en termes de valeur immobilière, en termes d'identité, de qualité, de ressenti, la qualité de vie. C'est le fait qu'aussi ce soit à la fois recherché par les entreprises, hein, les entreprises, pas que les particuliers, pour la qualité de l'environnement. Et ça, c'est un élément qui est assez central, alors sur lequel on n'a pas forcément, nous, énormément étudié. Donc là, on s'est appuyé sur pas mal de travaux internationaux et nationaux. Alors, on avait quand même des thèses sur la valeur immobilière des terrains proches des terrains et de l'immobilier proche de la nature en ville. Et sur ce sujet-là, enfin en lien avec ce sujet-là, on a récemment terminé un projet, enfin soutenu un projet qui s'est récemment terminé là en janvier 2018, pardon. Oasis urbaine, ménager des oasis urbaines en site urbain dense, dont le but était de définir le concept d'oasis urbaine, donc ces espaces de ressourcement qui sont des effets de coupure agréables et dans lesquels c'est tout un espace, hein. C'est pas que de la nature en ville, mais la nature en ville y occupe une place centrale. C'est-à-dire que c'est souvent un des parmi les facteurs déterminants de la qualité de la qualité, notamment au niveau sonore, c'est les bruits des oiseaux, et puis au niveau de visuel, c'est la végétation. Donc voilà, c'était juste pour montrer aussi l'importance de la nature en ville, et là c'est de manière indirecte, c'était pas l'objectif de ce projet, mais c'est bien, ça conforte bien l'attractivité des espaces urbanisés grâce à la nature en ville. Je vous ai pas mis, mais pareil, le rapport final est disponible sur le site de l'ADEME dans la médiathèque. Et dernier sujet, alors là, je voulais l'aborder parce que c'est quelque chose qui est très important à l'ADEME, c'est sur le stockage du carbone. En gros, les gaz à effet de serre, c'est un des gros sujets qu'on aborde à l'ADEME. Et sur la question de la limitation de la concentration en gaz à effet de serre, la nature permet de stocker du carbone dans une certaine mesure, dans certaines conditions, hein, comme pour les autres sujets. Et surtout, on émet trop de gaz à effet de serre pour pouvoir tout absorber. Donc il faut considérer le fait que, avec la nature en ville, on peut peut-être éviter certaines émissions. On peut certainement aussi en stocker, mais c'est pas que les arbres qui permettent de stocker du carbone qui vont nous permettre de stopper l'effet de serre. Voilà pour ce dernier extrait et le récap du quiz. Ouais, je vous ai pas fait jouer, j'aurais peut-être dû vous faire jouer. Pour terminer sur le positionnement de l'ouvrage, juste pour rappeler l'objectif, ça permet de bien voir en quoi il est complémentaire avec les autres travaux, avec les ouvrages, les méthodologies qui proposent des orientations pour l'aménagement. Donc nous, on ne propose pas vraiment de dire il faut faire ci ou ça dans un aménagement, c'est plus de dire... voilà, sachez que telle mesure va avoir tel impact et on ne va pas plus loin. Il y a de très bons ouvrages qui donnent plus des orientations. Nous, ce n'était pas l'objet de ce document. On a d'ailleurs abordé la question il y a quelques années à travers un cahier de l'AEU. L'AEU, c'est une approche construite par l'ADEME, l'approche environnementale de l'urbanisme, qui propose un guide méthodologique, toute une série de cahiers. C'est une démarche d'accompagnement des projets d'urbanisme qui permet d'intégrer des questionnements en amont des projets pour prendre en compte l'environnement et le développement durable plus largement. Et on a publié un document plus sur les écosystèmes avec un grand zoom sur la biodiversité, les espaces de nature notamment aménagés, de nature en ville, la question de l'agriculture et la question des sols. Et on avait déjà proposé pas mal d'orientations dans ce document, et c'est notamment suite à ce travail-là qu'on s'est dit qu'on avait besoin de proposer des chiffres. C'est un peu aussi notre marque de fabrique à l'ADEME, hein, de proposer des chiffres. Et sur la question de l'AEU, j'avais deux exemples, mais je n'ai pas eu l'occasion de reboucler avec les collègues pour savoir ce qu'il en avait été, mais j'ai vu Cécile Tanguet ce matin qui m'a permis d'en dire deux mots sur les actualités vraiment locales, hein, la Riche et Fondette. On avait fait des approches environnementales de l'urbanisme, donc je les avais sélectionnées parce qu'il y avait une approche paysagère et ou biodiversité assez intéressante. Maintenant, je n'ai pas eu l'occasion de suivre le projet pour voir ce qu'il en était dans la réalité. Par contre, Cécile conseillait d'aller visiter la visite de vendredi... Pardon, Céline. Céline conseillait la visite de vendredi après-midi à Saint-Pierre-des-Corps avec une dimension très forte. Enfin, ce sera l'occasion de voir cette question de nature en ville en direct. Voilà. Et puis, donc, avec les travaux de recherche... qui approfondissent des impacts particuliers. Là, vous trouverez quelques chiffres, vous pourrez en trouver d'autres dans d'autres travaux de recherche. Donc, on n'a pas l'ambition de donner tous les chiffres qui peuvent exister, mais on voulait faire des zooms simplement pour donner des ordres de grandeur, mais on est bien conscient qu'on ne pouvait pas donner toute l'information complète. Donc là, on se situe en complémentarité avec les travaux de recherche, puisqu'on s'appuie sur eux, et on sait bien que les travaux de recherche permettent d'aller vraiment plus loin que, que ce panorama général. Et donc sur la recherche, on intervient donc en soutien à la recherche, principalement à travers des appels à projets. Donc il y a sur le site de l'ADEME une rubrique appel à projet, donc vous pourrez trouver l'ensemble des appels à projets. L'ADEME dispose d'un budget de 30 millions d'euros sur la recherche, dont 3 millions d'euros sur le financement des thèses. Donc pareil, des appels à thèses, appels à candidature qui se clôturent en début d'année, enfin au printemps. Donc là, ce sera pour l'année prochaine. Et sur, en lien avec la nature en ville, c'est l'appel à projet que l'on lance dans mon service, mode éval urba, sur l'évaluation, la modélisation et la prospective urbaine. On a eu 3 éditions déjà, et la prochaine édition, elle sera lancée fin 2018 pour un démarrage des projets en 2019. On a pour ça un budget d'environ 1 million d'euros. Et les axes sont en cours de constitution, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus que ce que j'ai noté là sur la slide, mais bon, il y a un axe sur les territoires inclusifs en lien avec la transition énergétique et écologique, un axe sur les formes urbaines et la surchauffe urbaine, donc là je pense qu'on a vraiment de la matière pour traiter la nature en ville, et puis sur les interstices urbains aussi, je pense qu'il faut là aussi que la nature en ville a toute sa place. Donc voilà, si ça vous intéresse, faut pas hésiter à partir de, je pense, octobre-novembre. Je pense que l'appel à projet sera sorti octobre et à proposer des projets. Alors ils peuvent traiter sur un axe, plusieurs axes. Bon, ce sera détaillé dans l'appel à projet de recherche de manière plus forte, mais pour l'instant, voilà ce que je peux vous en dire. Et là, bon, c'est pas encore moins lisible, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu travailler, soutenir, notamment sur les sols urbains. C'était un zoom sur les sols urbains. Mais voilà pour la recherche. Merci à tous.